Bonsoir. Le statu quo n'est pas acceptable à la SNCF, déclare cet après-midi Édouard Philippe en ce premier jour de grève. Oui, on voit le gouvernement se montre ferme face à une CGT qui manifestement veut faire un sort à la réforme, celle de la SNCF, mais peut-être au-delà, en général, à la réforme. Alors, qui aura le dernier mot dans un pays qui recommence à attirer les investisseurs étrangers? Oui, est-ce que le président de la République pourra mener jusqu'au bout ses chantiers? Au fait, Emmanuel Macron, est-ce qu'il joue son quinquennat sur la SNCF? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et nos décodeurs de l'écho ce soir, il y a Marc Lhermitte qui est associé dans le grand cabinet international de conseil aux entreprises qu'est EY. François Asselin, président de la CPME. Philippe Vivien qui dirige le cabinet de conseil en relations sociales Alixio. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Luc Berry, secrétaire général de l'UNSA. On va revenir évidemment sur cette première journée de grève, sur ce dialogue. Pour l'instant, au point mort, hein, manifestement, quand on écoute les uns les autres. On va démarrer quand même par une bonne nouvelle, oui, parce que tout n'était pas moche ce mardi, hein, au lendemain évidemment du week-end de Pâques. Les investisseurs étrangers au plus haut depuis 10 ans. Voilà, plus 16% selon un bilan publié ce matin par Business France, au siège de Cisco France, en présence du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. On voit les États-Unis qui redeviennent le principal pays investisseur, 18% des investissements étrangers, devant l'Allemagne maintenant, 16%, l'Italie 7%, le Royaume-Uni 7% et le Japon 5%. Alors Marc Lhermitte, évidemment, c'est bien de vous avoir ce soir, notamment puisque chaque année, vous sortez la Bible, hein, le rapport de EY sur l'attractivité de la France. Francis Back, je reprends l'expression du président de la République, voilà le retour de la France, il se confirme?
Oui, il se confirme et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on avait besoin de ça. Il se confirme dans un contexte économique européen qui reprend de la croissance. La France n'échappe pas à cette croissance, on est plutôt dans le trend européen. Et vous le voyez, l'image de la France se transforme progressivement, mais aussi un certain nombre de mesures, de réformes qui ont été menées pas seulement depuis 6-8 mois, mais depuis 2-3 ans. Qui disent que la France sait travailler sur sa compétitivité, sur son marché du travail.
Donc la réforme droit du travail El Khomri, puis ensuite les réformes Macron.
Voilà, et puis qu'elle a fait depuis là un peu plus longtemps énormément d'efforts pour attirer aussi des projets dans l'innovation, dans la recherche et le développement. Et puis c'est une surprise dans l'industrie qui n'abandonne pas complètement la France.
C'est vrai, on le voit donc dans les secteurs qui investissent en France, l'industrie notamment.
Oui, l'industrie, parce que il y a une industrie du futur en France, très technologique, plus sur les services, parce qu'il y a aussi des bassins d'emploi, des anciens bassins industriels dans lesquels c'est la face, je dirais, claire de notre taux de chômage qui reste quand même assez important, c'est qu'il y a des bassins d'emploi dans lesquels on trouve des compétences déjà prêtes à l'œuvre. Ce sont de petits projets, hein, il faut le savoir, mais ce sont néanmoins des projets industriels. Et on peut se dire que la France, c'est presque même numéro un européen des projets dans l'industrie, ce qui est une vraie surprise quand on entend aussi et qu'on sait que l'industrie en France, la désindustrialisation a marqué la France et que l'industrie pèse environ 12% de notre PIB. Mais c'est une réalité que des investisseurs étrangers intéresse à la France aussi pour y produire.
Les Américains qui dépassent les Allemands, c'était pas pour rien d'ailleurs que les annonces étaient faites au siège de Cisco, alors qu'on voit également des géants tels que Facebook, Google, Amazon, Microsoft également, voilà, qui misent particulièrement sur le pays.
Oui, qui misent sur le pays parce que c'est la deuxième économie européenne, parce que c'est aussi un pays de science, un pays d'infrastructure, on va en reparler, mais c'est aussi parce que dans ce pays, ils ont compris qu'on pouvait faire. Et c'est ce qui se passait ce matin chez Cisco, de l'intelligence artificielle, des projets très très technologiques pour lesquels le crédit d'impôt recherche, pour lesquels la formation de nos ingénieurs, pour lesquels le haut débit français sont de vrais atouts pour avoir des centres mondiaux d'excellence en France, pas seulement à Paris, d'ailleurs dans les régions.
Emmanuel Le Chypre.
Moi je pense qu'il se passe quelque chose de vraiment important sur l'industrie et je pense qu'on pourra dater à 2015-2016 presque une année zéro d'une nouvelle ère de de l'industrie française. Et alors là, je pense que je vais faire bondir François Asselin, mais c'est pas grave. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle génération d'industriels, comme il n'y en a pas eu sans doute depuis 50 ans. Je pense que entre le fait que les ingénieurs aujourd'hui, qui en ont fini avec les mirages de la finance, hein, rappelons-nous que tous nos grands ingénieurs, à partir de la fin des années 80, ont été attirés comme des papillons par les salles de marché des grandes banques et ont déserté totalement l'industrie. Tout ça, c'est fini. Ils reviennent massivement en masse, tous nos grands ingénieurs formés dans les grandes écoles, ils reviennent vers la vraie vie, l'industrie, etc. Ajoutez à ça tout ce qui est en train de se passer au sujet de la démographie des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un nombre invraisemblable d'entreprises qui sont en train et qui vont être transmises dans les années qui viennent. Et ça, on sait très bien que c'est toujours, pour une bonne partie de ces entreprises, un coup de jeune qui démarre. Et ce qui est en train de s'éteindre, et c'est là que François,
alors oui, parce que d'accord, je cherchais pourquoi.
Ce qui est en train de s'éteindre, et il faut le dire, je pense qu'il faut le dire sincèrement, ce qui est en train de s'éteindre, c'est une génération de PME, de dirigeants de PME, qui, faute de moyens, faute de pouvoir s'adapter à une réglementation et une fiscalité de plus en plus complexe, et qui changeait tout le temps, etc., n'ont pas su forcément s'adapter, ont raté le virage de la robotisation, n'ont pas su s'adapter. Et je pense que c'est cette génération-là qui est en train de passer la main et qu'on a vraiment une nouvelle génération qui arrive et qu'il est en train de se passer véritablement quelque chose dans notre industrie.
Alors, François Asselin, êtes-vous aussi mécontent que ça?
Non,
je suis un peu dur
non.
avec la vieille génération de patrons.
Pas non, François. Mais non, pas du tout, Emmanuel, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai emmené en janvier une centaine de chefs d'entreprise de PME au CES de Las Vegas pour justement ramener vers cette économie traditionnelle, eh bien, tout ce nouveau monde qui est à portée de main et qui est une vraie opportunité. Et c'est vrai qu'on peut assister à une sorte de fracture générationnelle au niveau des entreprises. Pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise sont comme les salariés. Ils ont besoin d'être accompagnés dans cette transition. C'est évident. Et ceux qui n'y vont pas, eh bien, peuvent être en danger demain. Donc, moi, mon rôle...
Regardez le défi ETI tous les week-ends sur BFM Business. Hein. Voilà.
Bien sûr. Mais l'analyse est parfaitement juste. Et ce que je dirais aussi, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, sur les marchés extérieurs, être français, c'est tendance. Pour pas mal de raisons. D'abord, l'âge du capitaine. C'est vrai que nouveau président de la République, tout le monde a eu peur entre l'extrême gauche ou l'extrême droite. Ouais. Et là, quelqu'un qui arrive finalement de nulle part... jeune, pro-européen, ouvert sur la mondialisation.
Très bankable, c'est... Macron. Très bankable.
Voilà, exactement. Ça a une image extrêmement positive sur nous, entrepreneurs français. Deuxième chose, c'est que on attend maintenant les actes posés. Ah. Et l'atterrissage sur les ordonnances a été un virage majeur pour un pays qui se disait d'extérieur non réformable. Pour, et d'une part, l'image même du président de la République et le premier acte posé dans les réformes avec les ordonnances, eh bien, on est parti plutôt dans une bonne direction. Alors, nous sommes aussi un pays plutôt élégant, nous sommes reconnus pour notre élégance. J'espère que la grève dans laquelle nous rentrons, eh bien, nous en sortirons avec beaucoup d'élégance. C'est tout ce que je peux souhaiter pour l'ensemble du tissu économique de notre pays.
Est-ce que vous pensez que ces grèves seraient en mesure de remettre en cause cette attractivité ou pas, François Asselin?
Faut faire la parole aux autres après. Faut faire attention. C'est le genre de choses, effectivement, où si on l'inscrit dans le temps, eh bien, on peut gentiment mais sûrement écorner notre image et on a besoin qu'elle reste au firmament.
Vous dites un mot, Marc Lhermitte, oui. Justement, au nom de EY, puis je donne la parole aux autres.
On revient de loin, la
bonne santé,
l'embellie est fragile, hein, donc ouais. Les concurrents sont pas les bras ballants, même avec le Brexit, le Royaume-Uni se bat pour garder ses entreprises. L'Allemagne est un pays qui a 2000 atouts également, un peu différent des nôtres, et puis on a des concurrents partout en Europe, partout dans le monde, qui voient la croissance et qui essaient d'en tirer les profits en attirant les mêmes investisseurs étrangers, donc croyons pas qu'on est sur une île.
Alors, Philippe Vivien et Luc Berry de ça. Allez-y, Philippe Vivien, Alexio.
Évidemment, enfin, tout ce qui s'est passé, en particulier les ordonnances, a eu un rôle majeur dans ce retour de l'attractivité, avec toute la lisibilité que ça donnait, toute cette capacité à réformer. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal de sortir aujourd'hui ces chiffres au moment où le dialogue social est un peu compliqué. Et ce qui était intéressant dans tout ce qui a été fait sur les ordonnances, c'est par exemple une petite phrase qui a été très peu soulignée, qui était le motif économique qui devait être apprécié en cas de restructuration était sur le territoire national. Ça peut nous paraître une évidence. Précédemment, c'était la totalité de l'économie du groupe mondial. Comment voulez-vous, je dirais, à partir de là, qu'un groupe ait envie d'investir nouvellement en France? Là, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus sensé. Et pour travailler avec beaucoup de dirigeants internationaux, il est évident que pour eux, on revenait, si je puis dire, à une situation juste normale. Et il faut qu'on puisse continuer, je dirais, à développer cette capacité de transformation, de dialogue social. Je crois qu'effectivement, la journée, la concordance des temps est un peu malheureuse.
Alors justement, tiens, Luc Berry, comment vous intégrez dans ce concert de louanges vis-à-vis du retour de la France qui attire les investissements étrangers, mais il ne faudrait pas gâcher la fête par des grèves auxquelles vous contribuez.
Non, je sais que tout est merveilleux, mais il se trouve que ce pays n'est pas forcément un pays qui n'était pas attractif. Il y a toujours un fort niveau d'investissement, tout simplement parce que c'est la France, parce que pour les raisons que vous avez évoquées, la France c'est l'Europe aussi, c'est une porte ouverte vers l'Europe, elle est considérée comme ça. Donc il y a toujours eu un fort niveau d'investissement étranger. S'il est encore meilleur, tant mieux.
Moi, il était à la baisse ces dernières années, vous le savez.
À la baisse relative. Enfin, on restait quand même un pays attractif et compétitif.
On n'était pas très en forme, on va dire entre 2005. Voilà. Qu'à 2015, on n'avait pas de quoi être très fier de nos résultats, et puis ça se redresse depuis 2 ans.
Voilà. L'autre aspect quand même, c'est, moi je m'interroge, enfin le fait qu'il y ait des investisseurs étrangers, c'est une bonne nouvelle, j'espère une bonne nouvelle pour l'emploi.
Alors je vais donner les chiffres. 1300 décisions d'investissement qui ont permis de créer ou de maintenir 33 489 emplois l'an dernier, selon Business France. Donc, je le disais, un total en hausse de 11% par rapport à l'année précédente de ces investissements.
C'est très bien. Vous savez, ça évoque pour moi la réunion qu'a tenue à Versailles, dans un lieu prestigieux, le président de la République, avec un certain nombre d'entreprises et d'investisseurs étrangers.
Il avait, sur la route de Davos.
Voilà, vous vous en souvenez. Et il avait mis en avant, notamment, un certain nombre de créations d'emplois qui étaient attendues. Vous savez, on a beaucoup parlé ce week-end d'un autre conflit. Je ne parle pas de la SNCF. Carrefour. Ouais. Carrefour, il y a de l'ordre de 5000 emplois qui sont menacés. Oui. À elle seule, on risque de voir disparaître. Il y avait moins de 5000 emplois qui étaient promis par les investisseurs étrangers réunis à Versailles. Donc je n'oppose pas l'un à l'autre, c'est pas le même type d'emploi. Mais enfin quand même, un des sujets qui est quand même un sujet très important en France, derrière ce développement économique, c'est la façon dont cette reprise économique va alimenter ou non les emplois. Alors il y a effectivement des atouts sur lesquels il faut jouer. La question des infrastructures, on va y venir, est un de ces atouts qui explique les éléments. Mais moi, je suis persuadé que un des éléments de la compétitivité qui peut effectivement attirer dans ce pays, c'est aussi une amélioration du dialogue social. Et à travers les conflits qui ont lieu aujourd'hui, on voit bien comment, peut-être dans la méthodologie du gouvernement, la belle et bonne image du président de la République ne suffit pas. Regardons un peu ce qu'est ce pays français, regardons comment on peut y développer une économie et sur quelle base. Et la question de la qualité du dialogue social est un des éléments sur lequel le président de la République et sa majorité ont peut-être encore quelques progrès à faire.
Qu'est-ce qu'on voit justement de la France en ce moment? Est-ce qu'on voit plutôt, en effet, pour prolonger ce que disait Luc Berry, de la détermination d'un exécutif ou de l'entêtement d'un exécutif dans un sens? Ça peut être vu comme positif. Dans l'autre sens, ça fait, bah, évidemment, c'est un handicap. Alors tiens, qui prend la parole? Emmanuel et puis Philippe. Emmanuel Le Chypre et ensuite Philippe Vivien.
Le problème, c'est que, alors, la France étant la France, je trouve qu'on a une approche sur des sujets qui sont techniques qui est quand même souvent très idéologique. C'est-à-dire que sur le cas de la SNCF, il faut serrer les problèmes. Il y a un problème passé qui est l'accumulation de la dette et le sous-investissement massif dans les infrastructures. Tout ça résultant d'une stratégie ayant tout misé sur le tout TGV, etc. Reconnaissons que dans cette situation financière assez peu reluisante, le statut des cheminots, il n'est pas responsable de grand-chose.
C'est pas grand-chose.
Et donc, la vraie question, c'est quoi? C'est comment demain assurer un service de qualité sur le chemin de fer? Et ça, cette question-là, le problème, c'est qu'elle n'est pas tellement sur la place publique, parce que sur quoi on demande aux Français d'être un petit peu les arbitres aujourd'hui? Alors, c'est les questions, les ordonnances, mais tout ça, les Français, ça leur passe au-dessus. La réalité, c'est que une libéralisation, une déréglementation, son succès ne dépend que de son architecture. Les deux meilleurs systèmes de chemin de fer au monde aujourd'hui, que tout le monde reconnaît comme étant les deux plus performants, la Suisse, le Japon. La Suisse, c'est public, le Japon, c'est privé. Donc, quand vous avez des gestionnaires de ces réseaux qui savent faire les investissements qui sont nécessaires, etc., ça fonctionne. Voilà. Donc, moi, ce qui me choque dans ce sujet, c'est que je trouve que l'incompétence, l'incurie même des dirigeants de la SNCF depuis 20 20 ans, aidés par l'État, parce qu'il faut rappeler quand même que la seule préoccupation des dirigeants politiques ces dernières années sur la SNCF, c'était un, d'avoir la paix sociale, et deux, d'avoir un TGV qui s'arrêtait dans leur ville. C'était quand même que ça. Hein. Première consigne qu'on donne à un patron de la SNCF, c'est pas de vague, personne ne s'est occupé de rien. Donc, stratégie quand même assez mauvaise. Et la réalité, c'est qu'on veut faire porter tout ça aujourd'hui excessivement, à mon sens, sur le statut. Le statut, il y avait un moyen très simple, plutôt que de s'attaquer frontalement à ce sujet. C'était, de toute façon, comme va y avoir une réforme des retraites et une uniformisation des régimes, on intégrait le régime des cheminots là-dedans, et le surcoût du statut globalement s'éteignait comme ça, et ne restait du statut qu'on pouvait garder que des primes et des choses comme ça. Et je trouve que c'est mon fond de pensée, c'est qu'Emmanuel Macron, avec cette réforme de la SNCF, il veut se payer un trophée avec le statut des cheminots, qui est un petit peu le fort à la mot des statuts, parce que si le statut des cheminots tombe, les autres statuts tombent. Et qu'il y avait un autre moyen pour avoir une réforme de la SNCF et du chemin de fer qui n'aborde pas frontalement cette question du statut, qui encore une fois est importante pour la future compétitivité, mais n'était pas majeur.
Mais au-delà de la grève de la SNCF, et en effet, c'en est peut-être une illustration, Emmanuel Lechypre, dans ce que vous venez de dire sur la méthode Macron, c'est quoi la qualité du dialogue social aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui est observé? Qu'est-ce qui est vu, justement? Philippe Vivien, Alexio, je donnerai la parole à tous les autres.
La qualité du dialogue social, elle est forte, il faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se transforment. Luc Berry l'a dit tout à l'heure. Enfin, c'est la vie normale des entreprises que de se transformer au quotidien. Et là-dessus, il n'y a pas de grandes difficultés. On voit bien comment, je dirais, les ordonnances se sont mises en place. On n'a pas non plus attendu les ordonnances pour avoir du dialogue social. C'est clair aussi. Et c'est très simple, dès qu'on arrive à avoir un diagnostic à peu près clair, sur le pourquoi on doit se transformer, alors je dirais, il n'y a pas de difficulté, je dirais, à transformer l'entreprise et à négocier les voies de passage qui vont bien. Ce qui est toujours compliqué, c'est ce que vient de dire Emmanuel Lechypre, c'est que là, le pourquoi, il n'est pas si évident que cela. L'effet statut existe, mais ça va bien au-delà. Et on voit bien c'est la question que vous posiez, entre entêtement ou pas entêtement. Quand vous regardez le sondage qui est sorti ce week-end, c'est 51% des sondés qui disent « Souhaitez-vous que le gouvernement aille au bout ?» Oui, 51%. Oui. Pensez-vous qu'il ira au bout? 71%. Oui. 20 points d'écart. Oui. Donc, on voit bien qu'on est au-delà du rationnel et on est sur totem et tabou, hein, de manière très simple dans ce cas particulier.
François Asselin, l'exécutif aujourd'hui, est-ce qu'il donne la parole assez aux partenaires sociaux, ou alors il appuie sur un bouton et il veut que ça descende?
Je pense qu'il y a eu un très bon départ à travers les ordonnances où, franchement, chaque organisation a été écoutée le temps qu'elle voulait, le nombre de fois qu'elle voulait, etc., d'une façon complètement équilibrée et finalement très directe. Hein. Par la suite, on sent que il y a peut-être, un complexe de supériorité, en tout cas peut-être un péché d'orgueil, en voulant dire, écoutez, ça a marché, maintenant on va vous montrer. Donc, là où je suis plutôt optimiste, c'est qu'il y a tous les moyens pour sortir par le haut de cette grève. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'exemple de l'Angleterre, qui était un fiasco, privatisation totale. Et d'ailleurs, même en ce moment, ils sont en train de republiciter certaines lignes ferroviaires provinciales.
Privatisation.
Il y a eu les Allemands. Il y a eu, c'est-à-dire que je pense que cette belle entreprise qu'est la SNCF, avec ses agents aujourd'hui, a tous les outils pour négocier face au gouvernement une transformation extrêmement positive. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin. Du rail, c'est incontournable. On le voit bien aujourd'hui, quand vous êtes en grève, ça emmerde tous les Français, et particulièrement les plus fragiles, ceux qui ont besoin de prendre le train tous les matins pour aller au boulot.
Que dans toutes les propositions qui ont été formulées par les syndicats, etc., pour le moment, aucune n'a été reprise, évoquée. Donc il n'y a pas de discussion réellement.
Elle va venir, la discussion. Enfin, écoutez, on doutait.
La méthode du gouvernement, c'est quoi? C'est une méthode médiane avec un peu de fermeté et puis qu'il y a un petit peu de souplesse, quand notamment on dit on recourra pas forcément aussi systématiquement aux ordonnances, on les utilisera qu'en cas de blocage, par exemple, on va apporter des garanties aux cheminots sur l'ouverture échelonnée à la concurrence. Il y a un mix des deux ou pas?
Écoutez, moi je suis pas dans le secteur public, puisque étant président de la CPME, je m'occupe plutôt du secteur marchand. Hein. Donc je suis un observateur extérieur de ce qui se passe au niveau de la SNCF. Mais me semble-t-il, quand on voit les enjeux qu'il y a derrière tout cela, il me semble qu'il y a une voie de sortie, même si la méthode au départ est un petit peu cacophonique, et d'après ce que dit Luc Béril, ça ne fonctionne pas bien, en tout cas ça n'a pas bien fonctionné. Je pense qu'aujourd'hui il y a les moyens de sortir par le haut. Pourquoi ? Parce que d'abord, le changement, il est là.
Je veux dire, l'ouverture de la concurrence, elle est là. L'évolution de la compagnie, il faudra bien la faire. Ce que ne comprendraient pas les Français, c'est justement qu'on n'arrive pas à changer la SNCF, cette entreprise. Nous, à quoi nous sommes attachés, vous le disiez très bien, c'est que nous voulons un rapport qualité-prix le plus excellent possible. C'est ce que nous voulons. Si c'est, entre guillemets, à travers une entreprise publique, pourquoi pas? Si c'est à travers une entreprise privée, pourquoi pas? Il y a le Japon, il y a la Suisse. En attendant, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne.
Marc Lhermitte,
faut pas oublier que c'est un, pour les investisseurs étrangers, vu de l'extérieur, c'est un test. C'est un peu le test par la face nord, hein, mais c'est un test. Je pense qu'il y a une grande admiration pour cette capacité à avoir enclenché la première ou la seconde vitesse et transformé la France. Et on voit bien que c'est une accélération de cette transformation. Vu de Londres, vu de New York, vu de Chine probablement, parce qu'il y a 5% de ces investisseurs étrangers qui sont des investisseurs chinois, sont très sensibles à cette qualité, effectivement, de cette fluidité de l'économie et qu'ils n'a trouvé pas en France hier. Il y a un test de vérité sur la vérité de la transformation. Est-ce qu'on arrivera à réformer? Est-ce que ça ira plus loin? On sait derrière CEDF, c'est les retraites, qu'il y a tout un tas de chantiers qui sont à mener dans l'économie française, et par ailleurs, de chantiers qui vont permettre de réduire la dépense publique et de rendre à la France des moyens d'investir. C'est ça qui est regardé. C'est très regardé. Il faut faire attention à la, non pas seulement la façon dont nous allons être perturbés, c'est hyper perturbant, c'est une galère, un peu prévisible par les trois jours, mais c'est une galère quand même. Il faut regarder, c'est très attentif à la façon dont au test de la réforme et de la négociation, on arrivera à sortir de là.
Oui, Luc Berry, Philippe Vivien, c'est une bataille symbolique pour Emmanuel Macron, pour les syndicats, première grande épreuve évidemment pour Emmanuel Macron. C'est le symbole, cette SNCF, de cette volonté réformatrice?
Je pense que du côté du président de la République, il pose les choses de cette façon-là. Je pense qu'il a tort de le faire. Je comprends en termes politiques pourquoi il le fait. Je pense qu'il a tort et ça nous pose au cœur d'une... Ça pose finalement la question suivante. La transformation dont on parle, les adaptations de l'économie, du travail, etc., est-ce qu'elles peuvent se faire contre celles et ceux qui font ce travail? Et c'est très significatif à la SNCF quand vous avez une grève extrêmement massive, qui a comme caractéristique de mêler tous les secteurs de l'entreprise. Des personnels d'exécution jusqu'au plus haut cadre. Quand vous avez, c'est 150 000 personnes à peu près, quand vous avez à ce point-là, si vous voulez, un mouvement profond dans l'entreprise, c'est qu'il y a comme un problème. Qu'est-ce qu'on croit? Que ensuite, par la grâce de Jupiter, tout va rentrer dans l'ordre, Jupiter sera honoré, etc. Mais qu'est-ce qui reste dans ce pays? Donc, c'est un des sujets qui ne se pose pas pour les SNCF. L'état de la France et de la société française, c'est qu'il y a une inquiétude, une crainte, des doutes, des compétences, des atouts. C'est tout ça qu'il faut mêler. Et gouverner la France aujourd'hui, c'est pas simplement faire des coups politiques. Et vous voyez,
Mais vous, de votre côté, vous êtes prêt à aller... Parce que là, ça a bien marché aujourd'hui, cette grève, probablement demain également, quand on suit les prévisions donc de la direction de la SNCF. Est-ce que ça peut se poursuivre comme ça sur avril, mai, juin, de façon aussi aiguë qu'aujourd'hui, quoi, quelque part?
Écoutez, la suite nous le dira. Nous, à l'UNSA, on ne souhaite jamais cultiver un conflit pour le plaisir de cultiver un conflit. Quand l'UNSA rentre dans un conflit, c'est parce qu'elle estime que les conditions pour avancer par le dialogue et les négociations ne sont pas réunies. Vous savez, on est en train de se parler en ce moment. La commission qui va examiner ce texte à l'Assemblée nationale en est saisie aujourd'hui et demain. Ouais. La semaine prochaine, tout va être bouclé dans le débat à l'Assemblée nationale. Le texte est déjà écrit. Et on nous dit, dans les discussions, parce qu'il y a des discussions, nous y participons très activement, on nous dit qu'au fur et à mesure de l'avancée des discussions, on va introduire les choses par amendement. Tout est calé pour être
bouclé. Et non pas par ordonnance.
Ouais. Et pas par ordonnance. Alors, je ne sais pas si quelqu'un comprend, d'ailleurs, dans le détail, ce nouvel objet législatif qu'on est en train de nous servir. Mais quand vous avez des gens qui sont inquiets, qui se demandent à juste titre comment ça va fonctionner,
Dans un sens, l'ordonnance, c'est un paquet global, et amendement, c'est...
Vous avez à ce point, si vous voulez, de doute, d'interrogation et de manque de confiance, parce que les ordonnances modifiant le code du travail, on peut en avoir plusieurs lectures. Moi, du point de vue, je l'ai toujours dit, et tous les syndicats le disent d'ailleurs, du point de vue des arbitrages qui ont été rendus, quand les mesures sont perçues comme des mesures d'injustice sociale, écoutez, les Français, ils n'en veulent pas. Et ce sujet-là, le président Macron ferait bien de s'interroger à ce sujet-là. Quand il y a des mesures qui sont déséquilibrées, trop déséquilibrées, il n'y a pas d'acceptation, les gens les rejettent, et il n'y a pas l'efficacité dans la transformation dont on parle aujourd'hui.
Philippe Vivien, Alexio, un mot, puis on reviendra, on s'interrogera aussi sur...
un autre groupement, c'est la CGT aussi. Est-ce qu'elle n'instrumentalise pas ce conflit? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de manipulation de son côté?
Non, mais ce qui est très singulier dans une situation comme celle de la SNCF, c'est que on n'est pas en train de négocier dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est en train de négocier entre quand même le gouvernement d'un côté, la CGT de l'autre côté. On n'a pas l'impression que les acteurs du dialogue social de l'entreprise ont véritablement la main sur tout ce qui se passe.
Et donc, il n'y a pas que la CGT. Hein,
Non mais. On est d'accord, cher Luc Béril, mais on voit bien l'enjeu aujourd'hui
et la capacité.
C'est la différence avec la CGT.
Exactement, mais c'est ça l'enjeu. Et l'enjeu, c'est de montrer que ceux qui négocient dans l'entreprise pour accompagner la transformation peuvent
comme
véritablement
ça,
avoir la main. Et là, toute la difficulté, c'est que on est sorti de ce cadre où ceux qui accompagnent les transformations peuvent être en situation de négocier pour externaliser une sorte de vraie fausse négociation qui n'a pas de sens en tant que telle. Ouais. Et c'est un vrai sujet.
Bon, allez, est-ce que Macron joue son quinquennat sur la SNCF? On se retrouve vite avec les décodeurs de l'écho à la radio, à la télé. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, avec une première journée de grève très suivie, donc, et ça va se poursuivre ce mercredi. Donc, vous avez des grèves de 2 jours, tous les 5 jours, tout ça pendant 3 mois. Alors, pendant combien de temps? Ça, évidemment, ça, je suis incapable de vous répondre. Tout dépendra peut-être du dialogue, la détermination de l'un ou de l'autre. On verra. Simplement, en attendant, tiens, François Asselin, président de la CPME, c'est une tâche sur le pays, ces grèves d'avril 2018. Ça impacte la vie économique du pays? Peu ou, pour l'instant, pas encore complètement?
Ce qui risque d'impacter, c'est si cette grève bien perdure, cette grève annoncée comme étant perlée. Là, oui, c'est un véritable problème. Alors d'abord, c'est un premier problème pour ceux qui n'ont pas d'autre solution que de prendre le transport en commun pour aller sur leur lieu de travail. Donc, il y a des retards au travail. Les salariés doivent se lever très tôt, avec parfois peu de chances d'arriver à l'heure au travail. Donc, ça perturbe effectivement l'activité économique. Lorsque vous avez un rendez-vous commercial et que vous venez de province pour aller sur Paris, eh bien, vous loupez des affaires. Vous savez, moi, je me souviens, au moment des grèves concernant la réforme de Myriam El Khomri,
oui.
J'étais en concurrence avec des Allemands, avec un client chinois qui devait venir à Paris. Mon concurrent allemand envoyait des liens Internet à mon client potentiel chinois pour dire, regardez comme c'est le bazar en France.
Quelle saleté.
On a quand même réussi à signer l'affaire, mais il n'y a pas
vous
de
avez signé quand même. Bon, d'accord.
Et je suis une PME, je ne suis pas une grande entreprise. Autant vous dire que tout est utilisé à charge ou à décharge.
Oui,
donc,
sûr.
Faisons attention. Effectivement, ça peut être très perturbant pour l'activité économique.
Emmanuel, la durée limite d'une grève avant que ça commence à peser sur la croissance. Bon, là, pour l'instant, premier jour, il y aura un deuxième
c'est
tour.
C'est pas par rapport à la longueur de la grève, mais il y a des grèves qui sont plus ou moins perturbantes. Là, objectivement, je pense qu'il y a un secteur qui va souffrir, incontestablement, c'est le secteur du tourisme.
Oui. Ouais.
Parce que, effectivement, ça tombe au moment de tous les grands ponts du mois de mai. Il y en avait beaucoup cette année.
Les hôteliers de l'UAMIH, d'ailleurs, d'ores et déjà, commencent à se manifester.
Il y a beaucoup de gens qui vont renoncer sans doute à partir en week-end, et vous savez qu'il n'y a pas de denrée plus périssable qu'une nuit d'hôtel. Hein. Donc ça, ce sera perdu. En revanche, on n'est pas dans les grands types de paralysie qu'on connaît quand vous avez les raffineries qui sont bloquées, quand il n'y a plus d'essence, quand non seulement les trains, mais tout le secteur de la logistique est paralysé, ne peut plus fonctionner. Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, fondamentalement, alors oui, ça crée de la... Il y a des gens qui pourront pas aller travailler, il y aura des heures perdues, etc. Mais enfin, le télétravail, maintenant, aide beaucoup. Donc, je suis pas sûr que, même si c'est sans doute la grève la plus longue qui se dessine, ce soit celle qui aura le plus d'impact. Et en général, on voit que, de toute façon, il y a une partie de l'impact qui est rattrapée. Prenez, par exemple, 95. On estime que ça a coûté 0,2-0,3 points de PIB sur le dernier trimestre 95. Mais premier trimestre 96, vous avez 0,6% de croissance parce qu'il y a un effet rattrapage. Donc et puis les gens vont s'adapter, les gens vont s'organiser. C'est plastique, vous voyez tout ça.
Les gens s'organisent. Tiens, le télétravail, ça prend une importance grandissante d'année en année. Philippe,
oui,
bien Alexio.
Bien sûr, non, mais le télétravail, c'est évidemment, je dirais, un des éléments nouveaux des modes de travail mis en œuvre dans les entreprises. Je crois que ça, si on avait voulu faire la pub du télétravail, on s'y serait pas pris autrement, ça c'est clair. Une fois qu'on a dit ça, une fois malgré tout qu'on a dit ça, quand vous êtes en province et qu'il vous faut aller d'une station à une autre, d'une ville a une autre. Aujourd'hui, c'est pas aussi simple que ça. Et je regardais quand même ce matin et même encore cet après-midi les prévisions. Vous avez à peu près sur toutes les lignes régionales ou infrarégionales un train sur 5, 6, 7, 8.
Par 10.
C'est pas possible. Et de la part à la fois des salariés et des chefs d'entreprise, c'est quand même un sacré sujet. Voilà, on peut pas ne pas aller au boulot.
Alors,
dire les choses simplement.
En attendant, dialogue de sourds, hein, blocage de part et d'autre. Hein, le gouvernement déterminé, bien sûr, qui respecte le droit de grève et qui nous dit le statu quo n'est pas acceptable à la SNCF. Voici ce que disait Édouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre.
Je respecte les grévistes. Ils ont le droit de grève. Et aucun d'entre nous ici n'accepterait que ce droit de grève ne soit mis en cause. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Que les millions de Français qui veulent se déplacer doivent également être entendus.
Alors ça, la stratégie du gouvernement, c'est ça, c'est d'opposer ceux qui font grève, donc légitimement, ils ont le droit de faire grève, aux millions de Français qui veulent travailler. Le gouvernement joue l'opinion. Luc Berry, l'UNSA.
On voit dans la réponse du Premier ministre qu'il est très tenté. Bon, voilà. Donc, il dit qu'il ne va pas le faire, mais il le fait ensuite. Ouais. Bon. Moi, je pense qu'il faut...
Je cite la polito-économiste Véronique Jérôme cet après-midi sur Twitter, qui faisait remarquer que la communication du gouvernement, elle est mal maîtrisée. L'usage du « en même temps » n'est pas audible dans un conflit. Il faut choisir son camp pour être crédible.
Moi, je pense que le camp qu'il aurait fallu choisir, dès le début, c'est le camp de faire de la politique. Et de poser devant la France ce grand débat politique au meilleur sens du terme, qui est la question du déplacement, qui est la question notamment du transport ferroviaire, et à l'heure en particulier de la lutte contre le réchauffement climatique, beaucoup de Françaises et de Français, beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés auraient été prêts à mieux comprendre, à s'investir. Ce débat n'est pas du tout mené. On nous parle statut, on nous parle...
Pourquoi on a fait un grand débat sur la mobilité?
Alors, on a fait un grand débat sur la mobilité dont on a exclu le secteur ferroviaire. Donc, c'est particulièrement quand même... ce serait presque risible s'il n'y avait pas autant de conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on a un projet politique pour le pays, on le porte devant les citoyens et on assume ces débats. Comment est-ce qu'on peut mieux organiser le transport ferroviaire? Et le Premier ministre devrait faire attention parce que il nous vend finalement un secteur ferroviaire ouvert à la concurrence qui serait la solution de quoi? De tout? Pense-t-il que dans un certain nombre de pays qui se sont aventurés dans des...
Il n'a pas vraiment le choix.
Dans des expériences plus ou moins réussies, l'amélioration du transport pour celles et ceux qui travaillent, comme il le dit, n'est pas forcément garantie. D'autant que dans les dysfonctionnements de la SNCF...
Sur certaines lignes, de toute façon, on part de bas.
Oui, mais une large partie des dysfonctionnements de la SNCF sont d'abord dus à l'action de l'État. Vous savez,
c'est l'unique actionnaire.
Le nouveau monde est parfois très ancien. Les déclarations se réjouissant de la commande de 100 TGV, c'est le Premier ministre qui les a faites il y a quelques jours. Il a annoncé ça il y a quelques jours encore. C'est l'État qui l'a annoncé. Qui doit le payer, c'est la SNCF. C'est juste un détail qui vous montre comment, effectivement, cette entreprise a été conduite au surendettement. Comment le manque d'investissement sur les petites lignes aboutissent à des retards, etc., etc., à des problèmes de sécurité. Donc, on aurait pu aborder ces questions autrement. Le gouvernement ne l'a pas fait, il n'est pas trop tard pour le faire, mais il faut se dépêcher.
On en reparlera d'ailleurs jeudi soir avec le numéro 2 de la SNCF, Mathias Vicherin, qui sera ici sur ce plateau des décodeurs de l'écho. Marc Lhermitte, associé chez EY.
Moi, j'ai écouté ce matin attentivement Bruno Le Maire chez Cisco, parce que je voulais entendre en direct les bons résultats de la France, l'attractivité de la France, plus 16% d'investissement étranger. C'est quand on travaille sur ce sujet, on a envie d'être là. J'ai écouté la façon dont il a lié le sujet de l'attractivité de la France, donc une très belle année, avec celui de la SNCF, parce qu'évidemment, tous les médias qui étaient là l'ont interrogé sur, voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Est-ce que c'est pas une tâche? Pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui? Et je le sais, Bruno Le Maire a dit, d'abord, on a choisi de confirmer la date de cette présentation, cette conférence de presse, d'une part parce qu'on était dans une entreprise qui avait l'amabilité de nous recevoir et des gens qui travaillent, qui se mobilisent pour faire des présentations. Ça, c'est la courtoisie élémentaire. Mais il y a un autre sens, à mon avis, qui est intéressant, c'est de dire ce qui se joue, c'est c'est évidemment c'est pas seulement un signe, un symbole, un totem qu'on accroche, comme vous dites, à l'armure de Jupiter. C'est une transformation d'une entreprise qui est très importante pour l'attractivité de la France, parce que les infrastructures sont un des grands atouts de la France, la qualité, la fluidité des infrastructures. J'ajouterais la quasi-gratuité de beaucoup de nos infrastructures. Et c'est en faisant ce qu'on est en train de faire, dans la douleur, qu'on fait de la SNCF un opérateur compétitif au plan international, au plan européen, capable pas seulement d'être acheté à vil prix par des opérateurs étrangers, mais peut-être aussi d'exporter son savoir-faire, comme il le fait déjà, comme la RATP le fait également, l'exporter à l'international. Et pour ça, il faut aussi faire la réforme de la compétitivité de la SNCF. Parce qu'on aurait tort de penser que tout est fait, que l'attractivité de la France est maintenant au plus haut, qu'on ne s'arrêtera plus jamais. On a encore un gros chemin à faire pour améliorer la compétitivité, c'est-à-dire plus simplement le coût des choses. Voilà, ce qui nous permettrait de faire descendre un peu la dépense publique, ce qui nous permettrait de faire descendre un peu le coût du travail et d'alléger, de continuer à alléger, à libéraliser un petit peu notre économie qui reste une économie coûteuse malgré les améliorations de ces derniers mois, de ces dernières années, une économie un peu compliquée pour les entreprises, notamment internationales.
Oui, mais là, le sujet, c'est un peu comme quand, oui, mais c'est, enfin, j'entends, mais la façon dont le sujet est abordé aujourd'hui, en prenant la question du statut, etc., c'est un peu le même problème que quand on parle de réforme de l'État, on ne parle que du nombre de fonctionnaires qu'on va supprimer, du niveau de dépenses publiques auquel on veut arriver, et est-ce qu'il faut toucher au point d'indice ou pas des fonctionnaires. Mais la réalité, c'est que la vraie question qu'il faut d'abord se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un État moderne ? C'est quoi l'administration qu'on a besoin au XXIe siècle ? Et là, effectivement, la vraie question, c'est de quel service ferroviaire on a besoin au XXIe siècle. Et moi, je suis convaincu, parce que tout le diagnostic sur les erreurs passées, l'effort de compétitivité à faire, etc., je pense qu'il y avait des marges avec les personnels pour négocier, parce que refaites l'histoire de toutes les grandes réformes dans tous les grands pays, comme on peut les lire dans les notes du FMI, de l'OCDE, qui regardent tous les pays, toutes les réformes, etc. Il y a quand même une grande constante, quelle que soit la réforme qui est faite, c'est que ça marche quand vous embarquez avec vous les personnels et les usagers. Voilà. Et ça demande du temps, ça demande de la pédagogie, et c'est ce que ne fait pas ce gouvernement.
Alors, le gouvernement, Olivier Dussopt, qui est secrétaire d'État à la fonction publique, qui dit il existe à la SNCF une tradition de conflit. Est-ce que la CGT instrumentalise ce conflit ? Est-ce qu'il y a une manipulation de la CGT pour essayer éventuellement de fédérer tous les conflits ? Alors, même s'ils ne se ressemblent pas du tout.
Il y a des élections professionnelles.
Voilà, les pilotes d'Air France, c'est pas, ils n'ont pas le même salaire qu'un cheminot de la SNCF, par exemple. Il y a les salariés de Carrefour dont vous parliez tout à l'heure, Luc Berry, ceux qui ramassent les ordures, il y a les universités également. La CGT, elle essaye un petit peu de jouer sur tout ça pour aller faire en sorte qu'il y a... Tiens, il ne faut pas grand-chose pour que ça brûle, disait Jean-Claude Maillet. Oui, ils essayent ça, la CGT ?
Alors, je ne sais pas si la CGT essaie. Je pense qu'elle n'a pas du tout... Enfin, elle n'anticipe pas une coagulation, si je puis dire, des différents conflits. Bon, par contre, si elle essaie de se refaire aujourd'hui en démontrant que, je dirais, par rapport à des syndicats qui accompagnent les transformations, l'existence d'un syndicat opposant presque par principe est importante... C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a vu aujourd'hui, c'est pas du tout reporté, mais sur des tout petits conflits dans des entreprises de France et de Navarre, la CGT essayait de bouger. Est-ce que ça ira au-delà ? J'en suis pas sûr du tout. Et on voit bien qu'elle a perdu sa première place dans pas mal d'endroits. Et c'est pour elle aussi une façon, je dirais, de tenter de se refaire plus qu'autre chose.
Luc Berry, vous êtes bien à l'aise avec la CGT, avec Philippe Martinez ? Il parle la même langue que vous ou pas ?
On se parle sans trop de difficultés, comme on se connaît depuis un certain temps.
Oui, mais au-delà de ça.
Mais en termes de stratégie syndicale et de conception du syndicalisme, il est clair qu'on ne partage pas exactement la même approche. Nous, ce qui nous intéresse...
Vous restez avec eux pendant combien de temps encore ?
Mais, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui nous réunit à la SNCF dans le cadre d'une intersyndicale et qui réunit les quatre organisations représentatives des personnels, c'est avant tout la méthodologie, la difficulté à discuter pour pouvoir avancer. Alors après, on peut discuter, est-ce que certains veulent vraiment avancer ou pas ? Nous, je peux parler pour l'UNSA, nous cherchons véritablement à avancer. Et nous ne sommes pas, nous, du tout, sur une idée qu'il faudrait centraliser les luttes ou je ne sais trop quoi. Ça peut se poser à un moment donné. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a un problème, de le résoudre, si possible, d'apporter des solutions.
Emmanuel Lechypre, vous-même, vous avez croisé le fer avec des manifestants. C'était au pied de l'immeuble de BFM. C'était cet après-midi. Oh, on vous a vu, là, interpellé. Et puis, voilà. Oui, c'était gentil. Mais enfin, vous avez répondu quand même avec le micro. Dans la rue, il y avait des sonos.
C'est intéressant de discuter avec des gens qui ont l'impression d'être vilipendés, injustement traités, qui considèrent que ils ne comprennent pas pourquoi on les accuse d'être
Regardez les images, Emmanuel Lechypre, là.
On les accuse d'être des privilégiés, qu'on les accuse. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas. Alors, ils étaient là avec leur fiche de paye à 1500 euros, ils se lèvent à 2h
du matin. Ils sont mal tombés, ils sont tombés sur un fils, un petit-fils de cheminot.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont toujours un peu l'impression qu'on connaît pas la vraie vie, etc. Moi qui ai grandi dans les gares, mon père, il faisait les 3-8. Je sais ce que c'est que les inconvénients et les avantages aussi. Je le reconnais du statut de cheminot puisque j'ai bénéficié des facilités de circulation gratuite. Mais c'est très important de discuter. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est ce qui manque dans ce gouvernement, c'est que prenez n'importe quelle loi et franchement, c'est absolument pas lisible. Comment vous voulez faire croire que vous dialoguez alors que, comme nous l'a dit Luc Béril, le texte est déjà prêt, que les parlementaires vont commencer à discuter. Elle est où la place pour la discussion? Il y a pas. Je trouve que dans le calendrier, dans la succession des événements, il n'y a pas de lisibilité dans la stratégie. Et c'est quand même. Il doit y avoir un temps. Et ça, c'était beaucoup mieux ficelé au moment des ordonnances sur la loi
de l'été dernier.
On l'avait dit.
Bien sûr.
Là, il y a eu du temps. On a pris le temps de discuter. Et là, on n'y est pas du tout.
Au final, il joue son quinquennat sur la SNCF quand même. Emmanuel Macron, est-ce qu'il va devoir revoir le rythme des réformes? Alors, tiens, François Asselin, CPME.
Écoutez, moi, je pense que la CGT joue à moyen terme effectivement sa position. Emmanuel Macron, je ne pense pas qu'il joue son quinquennat parce qu'à mon avis, il y a des voies de sortie. Quand on discute avec Luc Béril, d'abord, c'est compliqué de se fâcher avec ce monsieur-là parce qu'il est posé. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous parliez de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce que l'on peut comprendre, c'est l'amour qu'on a de l'entreprise. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est l'amour qu'on a du statut. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est l'avenir de l'entreprise. Et si le statut doit évoluer pour permettre un avenir à l'entreprise, c'est ça le plus important. Et ce qui, moi, qui suis extérieur à la SNCF, ce qui m'insupporte, c'est de voir des gens qui sont complètement enferrossés sur, entre guillemets, des soi-disant avantages acquis. De toute façon, ils risquent de perdre. Parce que le plus gros des avantages, c'est demain, quelle va être la qualité de mon travail, comment je peux me réaliser. Faudrait jouer sur, par exemple, l'évolution des métiers, l'évolution des compétences, la formation. Bref, demain, on aura besoin de la SNCF encore plus qu'aujourd'hui, puisque la démographie fera qu'on aura besoin de plus en plus de transports en commun. C'est pour ça que vous avez une vraie ouverture par rapport, je dirais, à ce conflit. J'en suis intimement convaincu.
C'est la réponse d'Emmanuel Macron. Elle va marquer la suite de son quinquennat. Allez, un mot chacun. Tiens, la réforme des retraites, au fait, Emmanuel Le Chypre. Est-ce qu'elle est pas mise entre parenthèses? Elle a été prévue pour 2018. Ce sera finalement 2019. Avec la concertation qui a encore même pas débuté. C'est un signe ou pas? Que ça va se ralentir?
Non, mais là, encore une fois, ce qui est très compliqué, c'est que, par exemple, vous voyez bien qu'il y a un des éléments aujourd'hui dans le conflit de la SNCF qui est l'avenir des retraites.
Du personnel, ouais.
Vous pouvez pas le négocier parce que ça va être négocié dans une loi qui viendra dans un an. C'est quand même compliqué. Vous voyez, et moi je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on aurait dû d'abord s'attaquer à cette question des retraites parce que vous régliez en même temps la question du statut des cheminots qui posait problème aujourd'hui. Et voilà. Donc je pense que là, encore une fois, Emmanuel Macron, il cherche le trophée, il cherche le totem. Et ça risque de lui coûter cher.
Ça peut lui coûter cher. Luc Béry, Philippe Vivien, et puis on terminera avec Marc Lhermitte. Hein. Allez-y, un mot chacun.
Je crois que ce qui peut lui coûter cher à un moment donné, c'est perdre contact avec la réalité du pays. Il faut faire attention. C'est un pays qui a besoin de bouger, mais il faut faire bouger tous les Français. Et la métaphore du premier de cordée était passionnante. J'ai écrit un éditorial qui s'appelait « Dernier de cordée » pour rappeler que dans une cordée, il faut avancer ensemble. Et c'est le principal problème, je pense, qu'a Emmanuel Macron dans cette histoire.
Philippe Vivien.
L'enjeu du social, c'est toujours le même. C'est trouver les voies de passage et faire en sorte de ne pas aller trop loin. Là, je crois qu'on est en train de tester le jusqu'où ne pas aller trop loin. Et je pense que on se reparlera peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et on verra si on est allé trop loin ou pas.
Marc Hermé.
Moi, je crois pas qu'Emmanuel Macron joue son quinquennat sur cette réforme, sur ce conflit. En revanche, se battre contre les statuts, c'est se battre contre le statu quo. Et c'est ça dont la France peut être accusée. C'est d'être finalement assez immobile. Or, il faut avancer.
Merci les amis, merci Marc Lhermitte, associé donc chez EY, grand cabinet international, donc de conseil aux entreprises, spécialiste de l'attractivité de la France. On a vu donc que ça se portait mieux donc en ce début 2018. François Asselin, président de la CPME, merci. Philippe Vivien, directeur général d'Alixio, cabinet de conseil en relations sociales. Et Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Luc Béry qui était salué donc par François Asselin il y a une poignée de secondes. C'est le secrétaire général de l'UNSA. On revient très vite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.